Chapitre 12. Au bout de quelques moments que Wilhelm avait passé, agité de mille pensées, assis sur le banc, le regard fixe et rêveur, Philine s'avança doucement vers la porte de l'auberge en fredonnant quelques airs. S'assit auprès de lui, on pourrait presque dire sur lui, tant elle s'était approchée. Elle s'appuyait sur son épaule, jouait avec ses cheveux, lui caressait le visage et lui disait les plus jolies choses du monde. Elle le supplia de rester et de ne pas la laisser seule dans une société où elle mourrait d'ennui. Elle ne pouvait plus vivre sous le même toit que Mélina. Aussi s'était-elle transportée dans l'auberge de Wilhelm. Vainement chercha-t-il à se délivrer d'elle, à lui faire comprendre qu'il ne pouvait ni ne devait rester plus longtemps. Elle ne cessa de le conjurer. Elle lui passa même à l'improviste le bras autour du cou et lui donna des baisers passionnés. « Êtes-vous folle, Philine ? » s'écria Wilhelm en cherchant à se dégager. « Rendre la place publique témoin de semblables caresses que je ne mérite en aucune façon, laissez-moi, je ne puis rester, je ne resterai pas. » « Et je ne te lâcherai pas, » dit-elle, « et je t'embrasserai ici en pleine rue jusqu'à ce que tu m'aies promis ce que je désire. J'en mourrai de rire, » poursuivit-elle. « Après ces familiarités, les gens croiront assurément que nous sommes de nouveaux époux, et les maris, témoins d'une scène si agréable, me vanteront à leurs femmes, comme un modèle d'ingénue et naïve tendresse. » Quelques personnes passèrent justement, et Philine fit à Wilhelm les plus douces caresses. Et lui, pour éviter le scandale, il fut contraint de jouer le rôle de mari commode. Puis elle faisait des grimaces aux gens par derrière, et la folle étourdie continua de faire tant de sortes d'impertinences qu'il dut enfin lui promettre de rester encore ce jour-là et le lendemain et le surlendemain. « Vous êtes une véritable souche, » dit-elle là-dessus en le laissant aller, « et moi je suis une folle de vous prodiguer ainsi mes caresses. » Elle se leva de mauvaise humeur et fit quelques pas. Puis elle revint en riant et s'écria « Je crois que c'est justement pour cela que je raffole de toi. Je cours chercher mon tricot pour avoir quelque chose à faire. Reste là et que je retrouve l'homme de pierre sur le banc de pierre. » Cette fois, elle lui faisait tort, car malgré tous ses efforts pour se contenir, s'il se fût trouvé avec elle en ce moment sous un berceau solitaire, selon toute vraisemblance, il n'aurait pas manqué de répondre à ses caresses. Après lui avoir jeté une œillade agaçante, elle entra dans l'auberge. Il n'avait aucune envie de la suivre. Sa conduite avait même excité chez lui une nouvelle répugnance. Cependant, il se leva, sans savoir pourquoi, afin de la rejoindre. Il était sur le point d'entrer quand Mélina survint, lui adressa la parole avec politesse et lui demanda pardon de quelques expressions trop dures qui lui étaient échappées dans la dispute. « Vous ne m'en voudrez pas, » poursuivit-il, « si, dans la position où je me trouve, je laisse peut-être voir trop d'inquiétude. Le souci que j'ai pour une femme, bientôt peut-être pour un enfant, m'empêche de vivre tranquillement au jour le jour et de passer mon temps dans la jouissance de sensations agréables, comme cela vous est encore permis. Veuillez y réfléchir, et s'il vous est possible, mettez-moi en possession du mobilier théâtral qui se trouve ici. Je ne serai pas longtemps votre débiteur, et je vous serai éternellement obligé. » Wilhelm, fâché de se voir arrêté sur le seuil, qu'un penchant irrésistible portait alors à franchir pour joindre Philine, dit, avec une distraction soudaine et une bienveillance précipitée, « Si je puis vous rendre par là heureux et content, je ne veux pas balancer davantage. Allez, arrangez tout, je suis prêt à payer ce soir même ou demain matin. » Là-dessus, il tendit la main à Mélina pour gage de sa promesse, et fut très satisfait de le voir s'éloigner promptement. Par malheur, un nouvel obstacle, plus désagréable que le premier, l'empêcha de pénétrer dans la maison. Un jeune garçon, la valise sur le dos, arrivait à la hâte et s'approcha de Wilhelm, qui reconnut d'abord le petit Frédéric. « Me revoici !» s'écria-t-il, en promenant avec joie ses yeux bleus de tous côtés et à toutes les fenêtres. « Où est mademoiselle ? Qui diable pourrait durer plus longtemps au monde sans la voir ?» L'aubergiste, qui venait de s'approcher, répondit « Elle est là-haut !» En quelques sauts, Frédéric eut franchi l'escalier, et Wilhelm resta sur le seuil, comme pétrifié. Au premier moment, il aurait pris le jeune drôle par les cheveux pour lui faire dégringoler l'escalier. Mais l'accès violent d'une furieuse jalousie suspendit tout à coup le cours de ses esprits et de ses idées. Et lorsqu'il se fut remis peu à peu de sa stupeur, il fut saisi d'une inquiétude, d'un malaise, tel qu'il n'en avait éprouvé de sa vie. Il entra chez lui et trouva Mignon occupé à écrire. L'enfant s'était exercé depuis quelque temps, avec une grande application, à écrire tout ce qu'elle savait par cœur, et l'avait donné à corriger à son maître et son ami. Elle était infatigable et comprenait bien, mais les lettres étaient toujours inégales et les lignes irrégulières. Ici, comme toujours, son corps semblait en lutte avec son esprit. Wilhelm, à qui l'attention de l'enfant faisait grand plaisir, lorsqu'il était de sang-froid, s'arrêta peu cette fois à ce qu'elle lui montrait. Elle s'en aperçut et en fut d'autant plus affligée qu'elle croyait avoir très bien fait ce jour-là. L'inquiétude poussa Wilhelm dans les corridors. Il montait, il descendait, et il retourna bientôt à la porte d'entrée. À ce moment, arriva au galop un cavalier de bonne mine et qui, dans l'âge mûr, paraissait très vert encore. L'aubergiste courut au-devant de lui et lui tendit la main, comme à une ancienne connaissance, en s'écriant « Eh, monsieur l'écuyer, on vous revoit donc une fois ?»« Je ne veux que donner l'avoine à mon cheval, » dit l'étranger. « Je dois me rendre sans tarder au château pour faire tout préparer bien vite. Le comte et la comtesse y seront demain. Ils y séjourneront quelque temps pour recevoir de leur mieux le prince de... qui établira probablement dans le pays son quartier général. « C'est dommage que vous ne puissiez rester chez nous, » reprit l'aubergiste. « Nous avons bonne compagnie. » Un piqueur, arrivé au galop, prit le cheval de l'écuyer, qui s'entretenait avec l'hôte sur le seuil de la porte et paraissait observer Wilhelm. Wilhelm, s'apercevant que l'on parlait de lui, s'éloigna et se promena dans quelques rues. Chapitre 13. Dans la pénible inquiétude qu'il éprouvait, l'idée lui vint d'aller à la recherche du vieillard, espérant que sa harpe chasserait les mauvais esprits. Sur les informations qu'il demanda, il fut adressé à une méchante auberge dans une ruelle écartée. Et, dans l'auberge, on le fit monter jusqu'au grenier, où les doux sons de la harpe, s'échappant d'une chambre, arrivèrent jusqu'à lui. C'étaient des accords touchants, plaintifs, qui accompagnaient un chant triste et douloureux. Wilhelm se glissa vers la porte, et, comme le bon vieillard exécutait une espèce de fantaisie et répétait toujours un petit nombre de strophes, chantant et récitant tour à tour, après un moment d'attention, l'auditeur put saisir à peu près les paroles suivantes. « Celui qui jamais ne mangea son pain mouillé de larmes, qui jamais ne passa les tristes nuits assis sur sa couche et pleurant, celui-là ne vous connaît point, ô puissance céleste. Vous nous introduisez dans la vie, vous laissez le malheureux devenir coupable, puis vous l'abandonnez à sa peine, car toute faute s'expie sur la terre. » Cette plainte douloureuse et touchante pénétra Wilhelm jusqu'au fond de l'âme. Il lui semblait que le vieillard était quelquefois interrompu par les larmes, puis les cordes résonnaient seules, et enfin la voix y joignait de nouveau de faibles sons entrecoupés. Wilhelm se tenait auprès de la porte. Il était profondément ému. La douleur de l'inconnu ouvrit son cœur angoissé. Il ne résista pas à la compassion, et il laissa un libre cours aux larmes que la plainte touchante du vieillard fit aussi couler enfin de ses yeux. Toutes les douleurs dont son âme était oppressée s'exhalèrent à la fois. Il s'y abandonna tout entier. Il ouvrit la porte et se présenta devant le vieillard, qui avait dû se faire un siège du méchant grabat, unique meuble de ce misérable réduit. « Bon vieillard, s'écria-t-il, quelle sensation tu as excitée chez moi! Tout ce qui dormait dans mon cœur, tu l'as réveillé. Ne te trouble pas. Poursuis. En même temps que tu adoucis les souffrances, tu rends heureux un ami. » Le vieillard voulait se lever et répondre quelques mots. Wilhelm s'y opposa, car il avait remarqué le matin qu'il ne parlait pas volontiers. Il s'assit lui-même à son côté sur le grabat. Le vieillard essuya ses larmes et lui dit avec un gracieux sourire « Comment êtes-vous venu jusqu'ici? Je voulais vous faire ce soir une nouvelle visite. » « Nous sommes plus tranquilles ici, » répondit Wilhelm. « Chante-moi ce que tu voudras, ce qui convient à ta situation, et fais comme si je n'y étais pas. Il me semble que tu ne saurais te tromper aujourd'hui. Tu es bien heureux de pouvoir t'occuper et t'entretenir si doucement dans la solitude, et puisque tu es partout étranger, de trouver dans ton cœur la plus agréable connaissance. » Le vieillard jeta les yeux sur les cordes, et après avoir doucement préludé, il chanta. Qui s'abandonne à la retraite, hélas, est bientôt seul. Chacun vit, chacun aime, et le laisse à sa souffrance. Oui, laissez-moi ma peine. Et si je puis une fois être vraiment solitaire, alors je ne serai plus seul. Un amant se glisse sans bruit pour guetter si son ami est seul. Ainsi pénètre, nuit et jour, dans ma solitude, la peine, dans ma solitude, l'angoisse. Ah, qu'une fois je sois solitaire dans le tombeau, alors elle me laissera seule. Il faudrait trop nous étendre. Encore nous serait-il impossible d'exprimer le charme du singulier entretien que notre ami soutint avec le mystérieux étranger. À tout ce que disait le jeune homme, le vieillard répondait, avec la plus pure harmonie, par des accords qui éveillaient toutes les sensations voisines et ouvraient à l'imagination une vaste carrière. Quiconque assista jamais à une assemblée de ces personnes pieuses qui, séparées de l'Église, croient trouver une édification plus pure, plus intime et plus spirituelle, pourra se faire aussi une idée de la scène qui nous occupe. On se rappellera comme l'officiant s'est adapté à ses paroles quelques vers d'un cantique qui élève l'âme où l'orateur désire qu'elle prenne son vol. Comme, bientôt après, un membre de la communauté ajoute, avec une autre mélodie, un vers d'un autre chant, et comme à celui-ci un troisième en associe un autre, si bien que les idées analogues des cantiques auxquelles ces vers sont empruntés en sont éveillées, mais que chaque passage reçoit de la nouvelle combinaison un sens individuel et nouveau, que l'on dirait trouvé à l'instant même. En sorte que, d'un cercle d'idées connues, de cantiques et de passages connus, résulte pour cette assemblée, pour ce moment, un ensemble particulier, dont la jouissance la fortifie, l'anime et la restaure. C'est ainsi que le vieillard édifiait son auditeur, et, par des chants et des passages connus et inconnus, donnait à des sentiments éloignés et prochains, éveillés et assoupis, agréables et douloureux, une impulsion qui, dans la situation où se trouvait alors notre ami, pouvait produire les plus heureux résultats. Chapitre 14. Wilhelm, en revenant chez lui, commença en effet à réfléchir sur sa position, plus vivement qu'il n'avait fait jusqu'alors. Et il était arrivé au logis avec la résolution de s'en arracher. Quand l'aubergiste lui dit, en confidence, que mademoiselle Philine avait fait la conquête de l'écuyer du comte, qu'après avoir rempli sa commission au château, il était revenu en toute hâte et faisait avec elle un bon souper dans la chambre de la dame. Au même instant, Mélina survint avec le notaire. Ils se rendirent ensemble dans la chambre de Wilhelm. Là, il acquitta sa promesse, non sans quelque hésitation, et livra 300 écus contre une lettre de change sur Mélina, qui remit sur le champ les espèces au notaire et reçut en échange le titre d'achat de tout le mobilier de théâtre qu'on devait lui remettre le lendemain. À peine furent-ils séparés que Wilhelm entendit dans la maison des cris épouvantables. Une jeune voix, colère et menaçante, éclatait au travers de sanglots et de hurlements affreux. Il entendit ces cris, partis d'en haut, passer devant sa chambre et fuir dans la cour. La curiosité ayant fait descendre notre ami, il trouva le petit Frédéric dans une espèce de frénésie. Il pleurait, grinçait les dents, trépignait, menaçait du poing et faisait 1000 contorsions de colère et de douleur. Mignon était devant lui et l'observait avec étonnement. L'aubergiste expliqua assez clairement cette étrange scène. Après son retour, le jeune garçon, que Philine avait bien reçu, avait paru joyeux et content. Il avait chanté, sauté, jusqu'au moment où l'écuyer avait fait connaissance avec Philine. Alors le petit compagnon, encore enfant, presque jeune homme, avait commencé à témoigner son dépit, à fermer les portes avec fracas, à monter et à descendre comme un furieux. Philine lui avait commandé de servir ce soir à table, ce qui l'avait rendu toujours plus grondeur et mutin. Enfin, comme il portait un plat de ragoût, au lieu de le poser sur la table, il l'avait répandu entre mademoiselle et son convive, qui étaient assez près l'un de l'autre. Sur quoi, l'écuyer lui avait appliqué une bonne paire de soufflets et l'avait jeté à la porte. « Pour moi, ajouta l'aubergiste, je me suis mis à nettoyer les deux personnes, dont les habits sont en fort mauvais état. » Quand le jeune garçon apprit le bon effet de sa vengeance, il se mit à rire aux éclats, en même temps que les larmes lui coulaient encore sur les joues. Il se réjouit quelques moments de tout son cœur. Puis, l'affront que cet homme lui avait fait, en abusant de sa force, lui revenant à la pensée, ses cris et ses menaces recommencèrent. Wilhelm était rêveur et confus en présence de cette scène. Il voyait ses propres sentiments exprimés en traits énergiques, exagérés. Lui aussi, il était enflammé d'une insurmontable jalousie. Et si la bienséance ne l'avait pas arrêté, lui aussi, il aurait satisfait sa mauvaise humeur, maltraité avec une maligne joie la séduisante Philine et provoqué son rival. Il aurait voulu étouffer ces gens, qui ne semblaient être là que pour son tourment. Laerte, qui était aussi accourue et avait appris l'aventure, encouragea malicieusement le petit furieux, lorsqu'il protesta et jura que l'écuyer lui donnerait satisfaction, qu'il n'avait jamais souffert une insulte, que, si l'écuyer s'y refusait, il saurait bien se venger. Laerte était là dans son rôle. Il monta, d'un air sérieux, et provoqua l'écuyer au nom du jeune garçon. « C'est drôle, » dit l'écuyer, « je ne m'attendais guère ce soir à une pareille bouffonnerie. » Ils descendirent et Philine les suivit. « Mon fils, » dit l'écuyer au petit bonhomme, « tu es un brave garçon et je ne refuse pas de me battre avec toi. Mais, comme l'inégalité de nos âges et de nos forces rend la chose un peu extraordinaire, je propose, au lieu d'armes, une paire de fleurets. Nous frotterons les boutons avec de la craie, et celui qui marquera sur l'habit de l'autre la première botte, ou le plus grand nombre, sera déclaré vainqueur, et régalé par l'autre du meilleur vin qu'on puisse trouver dans la ville. Laerte décida que cette proposition pouvait être acceptée. Frédéric lui obéit comme à son maître. On apporta les fleurets, Philine s'assit, prit son tricot et observa les deux champions avec une grande tranquillité. L'écuyer, qui maniait fort bien le fleuret, fut assez complaisant pour ménager son adversaire et laisser marquer son habit de quelques taches de craie. Sur quoi ils s'embrassèrent et l'on apporta le vin. L'écuyer désira connaître la naissance et l'histoire de Frédéric. Le jeune garçon lui fit un conte, qu'il avait souvent répété, et que nous rapporterons une autre fois à nos lecteurs. Ce duel était pour Wilhelm le dernier trait du tableau de ses propres sentiments, car il ne pouvait se dissimuler qu'il aurait souhaité de tenir le fleuret, et mieux encore une épée, pour se battre avec l'écuyer, quoiqu'il vît bien que cet homme lui était fort supérieur dans l'art de l'escrime. Mais il ne daigna pas adresser un regard à Philine. Il se garda de toute parole qui aurait pu trahir ses sentiments, et après avoir bu quelques coups à la santé des combattants, il se hâta de regagner sa chambre, où mille pensées désagréables le vinrent assiéger. Il se rappelait le temps où son esprit s'élevait, d'un essor libre et plein d'espérance, où il nageait, comme dans son élément, dans les plus vives et les plus diverses jouissances. Il se voyait tomber dans une oisiveté sans but, où il ne goûtait qu'à peine du bout des lèvres ce qu'il avait savouré autrefois à longs traits. Mais il ne pouvait voir clairement le besoin invincible dont la nature lui avait fait une loi, et que ce besoin, stimulé seulement par les circonstances, n'était satisfait qu'à demi et s'égarait loin du but. Il ne faut donc pas s'étonner qu'en réfléchissant à sa situation et en cherchant avec effort les moyens d'en sortir, il fût tombé dans la plus grande perplexité. Ce n'était pas assez que son amitié pour Laerte, son inclination pour Philine, son attachement pour Mignon, l'enchaînassent, plus longtemps qu'il n'était convenable, dans une ville et dans une société au milieu de laquelle il pouvait se livrer à son goût favori, satisfaire ses désirs comme à la dérobée et, sans se proposer un but, poursuivre furtivement ses anciens rêves. Il croyait avoir assez de force pour s'arracher à ses liaisons et partir sur le champ. Mais il venait de s'engager avec Mélina dans une affaire d'argent. Il avait fait la connaissance du mystérieux vieillard et il sentait un désir inexprimable de le pénétrer. Cependant, longtemps agité de pensées diverses, il était résolu, il le croyait du moins, à ne pas se laisser retenir même par ses nouveaux liens. « Il faut que je parte !» s'écriait-il. « Je veux partir !» En disant ces mots, il se jeta sur un siège. Il était fort ému. Mignon entra et demanda si elle ne devait pas lui rouler les cheveux. Elle s'approchait sans bruit. Elle était fort affligée de ce qu'il l'avait renvoyé si brusquement ce jour-là. Rien n'est plus touchant que de voir une affection qui se nourrit en silence, une fidélité qui se fortifie en secret, se produire enfin dans l'instant propice et se manifester à celui qui jusqu'alors ne l'avait pas mérité. La jeune fleur, longtemps étroitement fermée, allait s'épanouir, et le cœur de Wilhelm ne pouvait être plus ouvert à la sympathie. Mignon était debout devant lui et voyait son trouble. « Maître, s'écria-t-elle, si tu es malheureux, que deviendra Mignon ?»« Cher enfant, dit-il en lui prenant les mains, tu es aussi une de mes douleurs. Il faut que je parte. » Elle le regarda fixement. Elle vit briller dans ses yeux les larmes qu'il retenait. Elle tomba violemment à genoux devant lui. Il tenait ses mains dans les siennes. Elle appuya sa tête sur les genoux de son maître, sans faire aucun mouvement. Il jouait avec ses cheveux d'une main caressante. Elle resta longtemps immobile. Enfin, il aperçut chez elle une sorte de tressaillement, d'abord très faible et qui s'étendit par degrés à tous ses membres. « Que t'arrive-t-il, mignon ? » s'écria Wilhelm. Elle leva sa jolie tête, le regarda, et porta tout à coup la main sur son cœur, comme pour réprimer sa souffrance. Il la souleva, elle tomba sur les genoux de Wilhelm. Il la serra dans ses bras et lui donna un baiser. Pas un serrement de sa main, pas un mouvement ne répondit. Elle se pressait toujours le cœur, et tout à coup elle poussa un cri, accompagné de mouvements convulsifs. Elle se leva en sursaut et tomba soudain sur le plancher, comme si toutes ses articulations se fussent brisées. C'était un spectacle déchirant. « Mon enfant » s'écria-t-il en la relevant et l'embrassant avec force. « Mon enfant, qu'as-tu donc ?» Les spasmes continuaient, et du cœur, il se communiquait aux membres affaissés. Elle n'était soutenue que par les bras de Wilhelm. Il la pressait sur son cœur et la baignait de larmes. Tout à coup, elle parut se roidir encore, comme une personne qui souffre la plus violente douleur. Tous ses membres se ranimèrent avec une nouvelle violence, et, comme un ressort qui se détend, elle se jeta au cou de Wilhelm, en paraissant éprouver un déchirement profond. Puis, au même instant, un torrent de larmes coula de ses yeux fermés sur le sein de son ami. Il la serrait fortement. Elle pleurait, et aucune parole ne saurait exprimer la violence de ses pleurs. Ses longs cheveux s'étaient dénoués et flottaient sur les épaules de l'enfant éploré, et tout son être semblait s'écouler sans trêve en un déluge de larmes. Ses membres roidis reprirent leur souplesse, son cœur s'épanchait, et dans le trouble du moment, Wilhelm craignit qu'elle ne fondît dans ses bras et qu'il ne restât plus rien d'elle. Il la serrait toujours avec plus de force. « Mon enfant » s'écria-t-il. « Mon enfant, tu es à moi, si ce mot peut te consoler. Tu es à moi, je te garderai, je ne t'abandonnerai pas. » Les larmes coulaient encore. Enfin, elle se dressa sur ses pieds. Une douce sérénité brillait sur son visage. « Mon père, » dit-elle, « tu ne veux pas m'abandonner. Tu veux être mon père, je suis ton enfant. » À ce moment, les doux sons de la harpe retentirent devant la porte. Le vieillard venait offrir à son ami, en sacrifice du soir, ses chants les plus tendres, et lui, pressant toujours plus étroitement son enfant dans ses bras, il goûtait une pure et ineffable félicité.